Les initiés constituent la limite de cette voie.
Avec une belle crânerie, j'offrais mes services pour une recherche rapide et précise. J'aurais mieux fait de me taire. Je me trouvais dans un marais de livres qui comprenaient des études historiques et des ragots hermétiques, sans parvenir aisément à distinguer les renseignements fondés des informations fantaisistes. Je travaillais comme un automate pendant une semaine, et à la fin, je me décidai à présenter une liste presque incompréhensible de sectes, loges, conventicules, non sans que j'eusse eu, tout en l'établissant, quelques frémissements lorsque je rencontrais des noms connus que je ne m'attendais pas à trouver en cette compagnie, et des coïncidences chronologiques qu'il m'avait semblé curieux d'enregistrer. Je montrai le document à mes deux complices. 1645, Londres. Ashmole fonde l'Invisible College d'inspiration Rose-Croix. 1662, de l'Invisible College naît la Royal Society, et de la Royal Society, comme tout le monde le sait, la franc-maçonnerie. 1666, Paris, Académie des sciences. 1707, naissance de Claude-Louis de Saint-Germain, si vraiment il est né. 1717, création d'une grande loge londonienne. 1721, Anderson rédige les constitutions de la maçonnerie anglaise. Initié à Londres, Pierre le Grand fonde une loge en Russie. 1730, Montesquieu, de passage à Londres, est initié. 1737, Ramsay affirme l'origine templière de la maçonnerie. Origine du rite écossais, dorénavant en conflit avec la grande loge londonienne. 1738, Frédéric, alors prince héritier de Prusse, est initié. Il sera le protecteur des encyclopédistes. 1740, naissance autour de ces années-là en France de différentes loges. Les Écossais fidèles de Toulouse. Le Souverain Conseil Sublime, la mère loge écossaise du Grand Globe français, le Collège des Sublimes Princes du Royal Secret de Bordeaux, la Cour des Souverains Commandeurs du Temple de Carcassonne, les Philadelphes de Narbonne, le Chapitre des Rose-Croix de Montpellier, les Sublimes Élus de la Vérité. 1743, première apparition publique du comte de Saint-Germain, à Lyon, création du grade de chevalier Cadoche, qui doit venger les Templiers. 1753, Villermoz fonde la loge de la Parfaite Amitié. 1754, Martine de Pasquali fonde le Temple des Élus Cohen, ou peut-être le fait-il en 1760. 1756, le baron von Hund fonde la Stricte Observance Templière. Certains disent qu'elle est inspirée par Frédéric II de Prusse. On y parle pour la première fois des supérieurs inconnus. Certains insinuent que les supérieurs inconnus sont Frédéric et Voltaire. 1758. Saint-Germain arrive à Paris et offre ses services au roi en tant qu'expert estinture. Il fréquente la Pompadour. 1759. Il se formerait un conseil des empereurs d'Orient et d'Occident qui, 3 ans après, rédigerait les constitutions et règlements de Bordeaux, d'où prendrait origine le rite écossais ancien et accepté, qui cependant n'apparaît officiellement qu'en 1801. Typique du rite écossais sera la multiplication des hauts grades jusqu'à 33. 1760. Saint-Germain, au cours d'une mission diplomatique ambiguë en Hollande, doit s'enfuir, est arrêté à Londres, puis relaxé. Dom Pernetti fonde les Illuminés d'Avignon. Martine de Pasquali fonde les Chevaliers maçons élus de l'univers. 1762, Saint-Germain en Russie. 1763. Casanova rencontre Saint-Germain en Belgique. Il se fait appeler de Surmont et change une monnaie en or. Villermoz fonde le souverain chapitre des Chevaliers de l'Aigle Noir Rose-Croix. 1768, Villermoz entre dans les élus Cohen de Pasquali. On imprime apocryphe à Jérusalem les plus secrets mystères des hauts grades de la maçonnerie dévoilés ou le vrai Rose-Croix. On y raconte que la loge des Rose-Croix est sur la montagne de Hérédon, à 60 milles d'Édimbourg. Pasquali rencontre Louis-Claude de Saint-Martin, qui deviendra connu comme le philosophe inconnu. Dom Pernetti devient bibliothécaire du roi de Prusse. 1771. Le duc de Chartres, connu ensuite comme Philippe Égalité, devient grand maître du Grand Orient, puis Grand Orient de France, et cherche à unifier toutes les loges, résistance du côté des loges de rite écossais. 1772. Pasquali part pour Saint-Domingue, et Villermoz et Saint-Martin fondent un tribunal souverain qui deviendra ensuite la Grande Loge écossaise. 1774. Saint-Martin se retire pour devenir philosophe inconnu, et un délégué de la stricte observance templière va traiter avec Villermoz. Il en résulte un directoire écossais de la province d'Auvergne. Du directoire d'Auvergne naîtra le rite écossais rectifié. 1776, Saint-Germain, sous le nom du comte Weldon, présente des projets chimiques à Frédéric II. Naissance de la société des Philatètes pour réunir tous les hermétistes. Loge des Neuf Sœurs, y adhèrent Guillotin et Cabanis, Voltaire et Franklin. Weishaupt fonde les Illuminés de Bavière. Selon certains, il est initié par un marchand danois, Colmer, de retour d'Égypte, qui serait le mystérieux Altotas, maître de Cagliostro. 1778, Saint-Germain rencontre à Berlin Dom Pernetti. Villermoz fonde l'ordre des chevaliers bienfaisants de la cité sainte. L'étroite observance templière s'accorde avec le Grand Orient pour que soit accepté le rite écossais rectifié. 1782, grand séminaire de toutes les loges initiatiques à Wilhelmsbad. 1783, le marquis Thomé fonde le rite de Swedenborg. 1784, Saint-Germain mourait alors que, au service du landgrave de Hesse, il mettait au point une fabrique de couleurs. 1785, Cagliostro fonde le rite de Memphis qui deviendra le rite ancien et primitif de Memphis-Misraïm et qui augmentera le nombre des hauts grades jusqu'à 90. Éclate, manœuvré par Cagliostro, le scandale du collier de la reine, du mal décrit comme un complot maçon pour discréditer la monarchie. Soupçonné de complot révolutionnaire, l'ordre des Illuminés de Bavière est supprimé. 1786, Mirabeau est initié par les Illuminés de Bavière à Berlin. Paraît à Londres un manifeste rosicrucien attribué à Cagliostro. Mirabeau écrit une lettre à Cagliostro et à Lavater. 1787. Il existe environ 700 loges en France. On publie le Nachtrag de Weishaupt, qui décrit le diagramme d'une organisation secrète où chaque adhérent ne peut connaître que son propre immédiat supérieur. 1789, début de la Révolution française, crise des loges en France. 1794. Le 8 Vendémiaire, le député Grégoire présente à la Convention le projet d'un conservatoire des arts et métiers. Il sera installé à Saint-Martin-des-Champs en 1799 par le Conseil des 500. Le duc de Brunswick invite les loges à se dissoudre parce qu'une venimeuse secte subversive les a désormais toutes corrompues. 1798, arrestation de Cagliostro à Rome. 1801, à Charleston, on annonce la fondation officielle d'un rite écossais ancien et accepté avec 33 grades. 1824, document de la cour de Vienne au gouvernement français. On y dénonce des associations secrètes telles que les absolus, les indépendants, la haute vente de la charbonnerie. 1835, le kabbaliste Oettinger dit avoir rencontré Saint-Germain à Paris. 1846, l'écrivain viennois Franz Graffer publie la relation d'une rencontre de son frère et de Saint-Germain. Entre 1788 et 1790, Saint-Germain accueille le visiteur en feuilletant un livre de Paracels. 1865. Fondation de la Societas Rosicruciana in Anglia, d'après d'autres sources en 1860 ou en 1867. Y adhère Bulwer Lytton, auteur du roman rosicrucien Zanoni. 1868. Bakounine fonde l'Alliance de la démocratie socialiste, inspirée, selon certains, des Illuminés de Bavière. 1875. Elena Petrovna Blavatsky fonde la Société théosophique, parution de Isis dévoilée. Le baron Spedalieri se proclame membre de la Grande Loge des Frères solitaires de la montagne, frère illuminé de l'ordre ancien et restauré des manichéens et haut illuminé des martinistes. 1877, Madame Blavatsky parle du rôle théosophique de Saint-Germain. Parmi ses incarnations, il y a eu Roger et Francis Bacon, Rosenkreutz, Proclos, Saint-Alban. Le Grand Orient de France supprime l'invocation au grand architecte de l'univers et proclame la liberté de conscience absolue. Il rompt ses liens avec la Grande Loge anglaise et devient résolument laïque et radical. 1879. Fondation de la Societas Rosicruciana aux USA. 1880. Début de l'activité de Saint-Yves d'Alvèdre. Léopold Engler réorganise les Illuminés de Bavière. 1884, Léon XIII condamne dans l'encyclique Humanum Genus la franc-maçonnerie. Les catholiques la désertent et les rationalistes s'y précipitent. 1888, Stanislas de Guaita fonde l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix. Fondation en Angleterre de l'Hermetic Order of the Golden Dawn, 11 grades du néophyte à l'ipsissimus. En est empereur MacGregor Mather, sa sœur épouse Bergson. 1890, Joséphin Péladan abandonne Guaita et fonde la Rose-Croix catholique du Temple et du Graal, se proclamant Sar Merodach. La dispute entre les Rosicruciens de Guaita et ceux de Péladan s'appellera « Guerre des deux roses ». 1891, Papousse publie son traité méthodique de sciences occultes. 1898, Alistair Crowley, initié à la Golden Dawn. Il fondera ensuite l'ordre de Téléma pour son propre compte. 1907, de la Golden Dawn naît la Stella Matutina, à quoi adhère Yeats. 1909, en Amérique, Spencer Lewis réveille l'Anticus Mysticus Ordo Rosae Crucis et en 1916, il exécute avec succès la transformation d'un morceau de zinc en or. Max Endel fonde la Rosicrucian Fellowship. À des dates incertaines suivent le Lectorium Rosicrucianum, les Frères aînés de la Rose-Croix, la Fraternitas Hermetica, le Templum Rosacrucis. 1912, Annie Besant, disciple de Madame Blavatsky, fonde à Londres l'ordre du Temple de la Rose-Croix. 1918, naissance en Allemagne de la société Tulle. 1936, naissance en France du grand prieuré des Gaules, dans les cahiers de la Fraternité polaire, Enrico Contardi di Rodio parle d'une visite que lui a faite le comte de Saint-Germain. Qu'est-ce que signifie tout ça ? Demanda Diotta Lévy. Ne me le demandez pas à moi, vous vouliez des données, les voici. Je ne sais rien d'autre. Il faudra consulter Aglier, je parie que lui-même ne connaît pas toutes ces organisations. Allons donc, c'est sa pâture. Mais nous pouvons le mettre à l'épreuve. Ajoutons une secte qui n'existe pas, fondée récemment. Il me revint à l'esprit la curieuse question de De Angelis, si j'avais entendu parler du tresse. Et je dis, le tresse.
Et qu'est-ce que c'est ? Demanda Belbeau.
S'il y a l'acrostiche, il doit y avoir le texte sous-jacent, dit Diotta Lévy, autrement mes rabbins n'auraient pu s'adonner au notaricon. Voyons voir. Templi resurgentes, equites inarchici. Ça vous va ?
Le nom nous plut. Nous l'écrivîmes au bout de la liste.
Avec tous ces conventicules, en inventer un de plus n'était pas une mince affaire, disait Diotta Lévy, pris d'un accès de vanité.